Waouh, il y a du monde, ça fait plaisir. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Caroline Zorn et je suis vice-présidente de l'Eurométropole et j'ai la charge du numérique responsable, de l'université et d'autres petites choses. Et j'ai l'immense plaisir, honneur, privilège, avantage aujourd'hui que d'animer cette conférence inaugurale qu'on a intitulée Les énergies du numérique responsable. Alors, je tiens à remercier les intervenantes et intervenants du jour parce que ça a été compliqué de les réunir pour des questions de train, pour des questions d'agenda. Vraiment, merci à toutes et tous d'avoir fait l'effort de bloquer ce temps pour nous. C'est la conférence inaugurale. Donc, c'est un petit peu celle qui pose quand même le ton. Voyez, c'est celle qui vous dit cette semaine, voilà l'axe de réflexion, voilà le sujet sur lequel on veut travailler, et voilà aussi les termes du débat. Et ça, on aime bien poser les termes du débat. Donc, dans cette semaine européenne du numérique responsable, dont le programme extrêmement chargé, extrêmement dense est en ligne, eh bien, il y a un fil conducteur qui est celui, des énergies du numérique responsable. Énergie, pourquoi? Parce que cet hiver, on a beaucoup entendu parler de consommation, forcément. Et puis, on s'est dit qu'il n'y avait quand même pas que la question de la consommation lorsqu'on parlait de numérique responsable, et c'est aussi la stratégie de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, que de ne pas parler que de consommation et de numérique sobre, mais de parler de numérique responsable, c'est-à-dire axe 1, sobriété, axe 2, solidarité numérique, et axe 3, liberté numérique. Et c'est tout ça ensemble qui fait le numérique responsable. Et des énergies, eh bien, il y en a aussi beaucoup d'humaines dans le numérique. Et on va le voir tout au long de cette conférence, et surtout avec David, qui sera notre premier intervenant, eh bien, l'humain a une vraie place dans le numérique, et pas seulement comme utilisateur. Voilà. Donc, petit teasing. Je vais présenter rapidement nos intervenants et intervenants, et ensuite je serai la maîtresse du temps qui montrera des petits panneaux comme ça, 3 minutes, 1 minute, parce qu'il y a des trains, il y a un timing assez serré à tenir. Donc je commence tout de suite par vous présenter celles et ceux qui ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Je commence par David. Donc, David, bonjour David. Merci d'être là pour l'association Génération Lumière. Je te présenterai un tout petit peu plus. Enfin, non, je vais le faire maintenant, comme ça après, je te passerai la parole et puis on engagera la discussion. Moi, David, je t'ai rencontré au Numérique en commun l'année dernière à Lens et j'ai assisté, sur les bons conseils de Louise Vialard qui est en ligne, j'ai assisté à ton intervention, ta présentation sur la question de l'extraction et d'où viennent en fait ces matériaux, ces minerais qui sont nécessaires au numérique. J'ai pris une baffe. Vraiment, donc je voulais absolument commencer cette conférence par toi. Donc merci à toi et à Aurélia d'être ici aujourd'hui pour Génération Lumière. Ensuite, on parlera, après avoir vu comment est-ce qu'on fait en fait ces terminaux, on passera la parole à Gauthier qui devra partir à 18h15 précise, le pauvre. Et là, on va aborder la question, donc Gaëtan Gauthier Roussy, on va aborder la question de la complexité en fait de l'empreinte environnementale du numérique. Toi, tu es chercheur, et d'ailleurs, je crois aussi que c'est sur les bons conseils de Louise Vialard que je t'ai rencontré. C'est une femme de réseau, Louise. Ce sont tu es spécialiste de la question, tu es chercheur et on verra avec toi que c'est pas simple en fait d'appréhender l'empreinte globale du numérique et de nos usages numériques. Ensuite, enfin, vous l'attendez avec impatience depuis le temps que je vous en parle, Louise Vialard, qui est donc à distance avec nous. Est-ce que je la vois quelque part, Louise? Non, moi je te vois pas, Louise, mais je crois que toi tu nous vois et c'est le principal. Donc Louise Vialard, qui est conseillère de la ville de Nantes, également conseillère de la métropole de Nantes, et qui va nous parler de. Vous avez vu sur le programme, hein, elle est là? Oui, elle est là. Je te vois. Qui va répondre à cette question simple. Est-ce que l'on peut chauffer des pâtes avec un data center? Ben, j'ai pas envie de vous expliquer pourquoi j'ai intitulé son intervention comme cela. Elle le fera elle-même. Merci Louise d'être avec nous. Pierre Bessac. Pierre Bessac qui va. Bonjour Pierre, merci d'être là. Pierre Bessac qui va nous parler un petit peu de sa vision des éco-gestes et des recommandations extrêmement nombreuses qu'on a aujourd'hui. Et puis peut-être un peu de notre culpabilité numérique. parce que ça pèse en fait dans l'éco-anxiété qu'on peut vivre. Et je le précise tout de suite, mais je pense que vous l'avez remarqué, Pierre est porte-parole du Parti Pirate. Voilà. Et donc, je ne vous le cache pas non plus, ça ne se voit pas, il le cache très bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, puisque je le suis aussi. Hein, voilà. Et donc, Pierre a mis un certain nombre de doutes en fait, dans ma conception de certains items de la politique publique. Et donc, j'ai choisi de t'inviter pour que justement, tu puisses nous partager ça, puisque tu es informaticien depuis les années 80, je crois. Il est tombé dans l'informatique quand il était petit et il en a fait son métier. Et donc, c'est toi qui nous parlera donc de ces éco-gestes et de la manière de cette sobriété apaisée qu'on va essayer de rechercher. Et puis, je passerai la parole à Raphaël Gastavi, qui est de l'ADEME, qui est également à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre, qui aura le privilège d'être un petit peu le grand témoin en forme de conclusion de cette conférence. Et j'espère que nous aurons le temps, oui, pour des questions-réponses. Nous sommes pour l'instant dans les temps. Alors, je vais pouvoir passer la parole à David. Je vais te laisser te présenter et donc nous faire cette présentation de 20 minutes. J'essaie de t'indiquer un petit peu le temps au fur et à mesure. Cette association Génération Lumière m'émeut beaucoup. Et le travail que vous faites, et ce que j'ai encore compris tout à l'heure de la manière dont vous avancez, c'est vraiment un travail qui est essentiel. Merci de le faire. Puis je te passe la parole.
Merci beaucoup, Caroline. Et merci pour l'invitation, pour la métropole de Strasbourg et pour vous qui êtes là. Je suis David Maenda Kitoko. Et pour finir le suspense, je ne suis pas japonais pour les gens qui vont se tromper avec mon nom. Je suis évidemment congolais et réfugié en France. Mettez-y derrière ce que vous voulez. Je suis réfugié. Je n'ai pas envie de choisir des cartes politiques ou économiques. Bref, je suis reconnu réfugié en France. Et j'ai l'honneur d'être président de l'association Génération Lumière, qui est une association écologiste et qui travaille sur les questions d'extractivisme et de justice environnementale pour aller plus rapidement. Enfin, donc ce soir, je vais tenter de vous expliquer comment le numérique n'est pas si virtuel que ça à travers un certain nombre de choses que je vais essayer de démontrer si la régie est prête pour diffuser mon slide, mon diapo. Hop. Ça vient, c'est un peu le direct. Donc, Génération Lumière, qui est une asso qui est basée en France et dans la région des Grands Lacs, parce que l'objectif est de faire, le pont entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, et essayer de voir comment imaginer collectivement des pistes, des solutions. Donc, si la slide est prête, je me permets de me lever, je suis désolé. Ça vous convient? Ah, en plus, j'ai une télécommande. Alors, très rapidement, la RDC, première chose dont on parle de ce pays, en 1897, un géologue qu'on appelle Jules Cornet a défini ce territoire en deux mots. Un scandale géologique. Comment vous dire ça? C'est juste, c'est en moins de 10 ans après, après la conférence de Berlin qui a divisé l'Afrique en morceaux. Ça veut dire que le premier rapport que les Occidentaux ont eu avec ce territoire, ça n'est pas les millions d'habitants qui... Alors, ils n'étaient pas 90 millions, mais quand même, il y avait quand même des millions d'habitants tout de même sur ces territoires. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas non plus d'autres choses que je vous montrerai. La première chose qu'ils ont vue, c'était le sous-sol. Et cette vision, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je passe. Donc, c'est quand même un gros pays au centre d'Afrique avec plus de 2 345 000 km². Et plus de 90 millions d'habitants. Et pour les francophones, pour préserver la langue française, ce pays est pas mal, parce qu'on est francophone. Mais il y a aussi d'autres beautés dans ce territoire. Il y a le poumon, le deuxième poumon du monde après l'Amazonie, c'est la forêt tropicale, mais et d'autres ressources, enfin d'autres beautés que vous pouvez voir, et j'en passe. Vous trouverez encore d'autres chiffres qui sont plus flagrants pour présenter ce pays de manière assez différente. Pourquoi je vous parle de ça, vous verrez au fur et à mesure que j'avance. Et maintenant que je vous ai parlé, on va dire, des aspects un peu plus géographiques, si on veut, je vais vous parler rapidement de l'histoire de ce pays pour comprendre un peu. Donc, pour ceux qui connaissent le Congo d'avant 1885, je suis désolé, je vais commencer que par là, et puis parce que c'est important pour ce qui va suivre. 1885, conférence de Berlin, où on décide de diviser l'Afrique. Et là, on va décider de donner ces vastes territoires dont je vous ai décrit tout à l'heure à un seul homme, le roi des Belges, Léopold II. Je précise, à un seul homme, ça n'était pas une colonie belge, c'est un État indépendant qui appartenait à une seule personne, le roi des Belges. Ce n'est qu'en 1908 qu'il a décidé de le donner à la Belgique, et c'est comme ça qu'on est rentré dans une colonie. Pourquoi il a décidé de le donner? Parce qu'à un moment donné, des choses sont remontées en Occident. Pourquoi? Parce qu'il coupait la main des gens, il tuait les gens pour récolter du caoutchouc. À l'époque, c'était l'industrie de l'automobile qui avait le vent en poupe, et les multinationales de l'automobile de l'époque, malheureusement, avaient besoin des ressources congolaises. Et donc, les gens, pour payer un impôt, les ressources, on n'avait pas la même conception de la monnaie qu'ici, on payait par la force du travail. Et ceux qui étaient plus faibles, malades, etc., ou qui ne voulaient pas le faire, ils étaient tués, et comme preuve, on coupait la main pour prouver qu'ils ont bien travaillé. Puis en 1960, il y a l'indépendance. La personne qui s'est battue parmi tant d'autres pour obtenir l'indépendance, c'est Patrice Emery Lumumba, qui ne fera même pas un an au pouvoir, puisqu'il sera tué parce qu'il venait questionner le pouvoir des multinationales sur ce pays, qui a énormément de ressources. Il sera tué. Désolé, je vous décris sa mort, mais ça va être important dans la poursuite de ce que j'ai à vous dire. Découpé en morceaux. J'étais dans l'acide. Et aujourd'hui, tout ce qu'on garde de lui, c'est une dent. Et que la Belgique a bien voulu nous donner que l'année dernière, pour qu'enfin la famille de ce monsieur fasse un deuil. Puis ils ont installé un dictateur qui a duré 32 ans au pouvoir, Mobutu. Et puis il y a quelque chose qui se passe dans la région. C'est les génocides rwandais auxquels la France a joué un rôle. C'est déclassé, vous pourrez accéder à ça. En fait, il y a ce qu'on appelle l'opération turquoise, où ils ont ouvert un couloir pour faire passer la population pour qu'elle se réfugie à l'est du Congo. Simplement, ils ont laissé passer aussi des génocidaires qui ont commis des massacres, un génocide dans leur pays. Ils les ont passés. Et du moment où ils arrivent au Congo, ils vont avoir l'envie d'aller retourner chez eux et de prendre une revanche sur ceux qui ont combattu le génocide. Et c'est là qu'on va commencer par parler de la première guerre congolaise. Parce que le nouveau pouvoir au Rwanda va détecter cela comme une menace et va s'allier à un ancien rebelle qui s'est battu contre le dictateur, qui vont armer, et en 1996 et 98, il va avoir une guerre. On va appeler ça la première guerre congolaise. Mais en réalité, on appelle ça la première guerre mondiale africaine, parce que, après tout, les Africains aussi, nous avons droit à nos guerres mondiales. Et donc, lui, il va être assassiné, parce que 97, c'est le boom de l'économie électronique. Il y a une montée de demande, et lui, il ne s'entend plus avec ses anciens alliés qui se rendent compte qu'ils sont assis sur une manne et qu'il y a une demande énormissime, et que lui leur dit, bon, le deal est fini, vous pouvez rentrer chez vous, et là, il sera tué. Et on mettra en place son fils au pouvoir, sans élection, rien du tout. On a dit, ton père a été tué, c'est toi qui prends le pouvoir, point, ça s'arrête là. Et puis, en 2018, il a fait ce qu'on appelle un glissement, un arrangement aussi, un deal avec un autre héritier qui a participé dans le deal pour faire tuer Lumumba, qui est au pouvoir aujourd'hui depuis 2018. Ça, on va dire, c'est la première guerre mondiale africaine ou la première guerre congolaise. Le premier élément déclencheur, c'est le génocide rwandais. 32 ans de dictature soutenue par les États-Unis, la Belgique et la France, et l'envie d'un réel changement parce que la population n'en pouvait plus. C'est ce que j'appelle la guerre pour le pouvoir. La deuxième guerre du Congo, c'est là où l'économie électronique et par ricochet le numérique va jouer un rôle important. Pourquoi ? Je vous ai décrit qu'ils avaient besoin... Ils étaient assis sur une manne incroyable de richesses. Et comme vous pouvez voir, il y a un nombre, et là, je n'ai pas, tout répertorié, Gauthier pourra peut-être me corriger. Il y a une manne incroyable de ces ressources minérales qui sont utilisées dans l'économie électronique et qui sont concentrées sur la partie est pour sa grande majorité. Et la deuxième guerre va commencer à partir de 1997 et jusqu'à aujourd'hui. On parle de 6 millions de morts. C'est la fourchette basse des estimations. Parce que si on dit, si on va plus loin, c'est peut-être exagéré, mais c'est la fourchette basse. Et moi, j'aime bien comparer pour dire que dans le nord Kivu et le sud Kivu, qui est là, qui ont été des régions un peu plus impactées, à l'époque, on estimait qu'il y avait 12 millions d'habitants. Et si la guerre a fait 6 millions d'habitants et qu'elle s'est concentrée massivement sur cette partie, si on pouvait remettre tout, ça ferait à peu près la moitié de cette population qui a été décimée. 10 minutes, je vais avancer rapidement. Donc, 6 millions de morts, 4 millions d'exilés, dont je suis la preuve vivante ce soir, et puis 48 femmes violées par heure, soit plus de 10 000 femmes violées par semaine. Je vais m'excuser, je vais revenir sur cette partie du viol, parce que la conception que l'on peut avoir dans la tête de ce que c'est le viol, je vais vous demander de l'oublier un peu. Au Congo, ces femmes violées, ce ne sont pas, ça ne peut pas se définir tel qu'on peut se l'imaginer. C'est des plastiques brûlés qu'on met dans les parties génitaux des femmes. C'est des verres cassés qu'on met dans les parties génitaux des femmes, etc. Et le viol, ce n'est pas une conception d'inappétit sexuel quelconque, parce que ça part d'un enfant d'une petite de 3 mois à une personne âgée de plus de 90 ans. Pourquoi on fait ça ? C'est pour instaurer la terreur pour que la population quitte les territoires où se trouvent les minerais afin que les bandes armées puissent extraire de manière à ne pas être dérangées par la population. Je tenais également à vous mettre une partie environnementale puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la forêt, la deuxième plus grande forêt boisée au monde après l'Amazonie, mais aussi pour rappeler deux choses. Première chose, c'est que j'ai entendu un jour sur RMC, par rapport à la crise ukrainienne, qu'on s'intéressait à ce qui se passait en Ukraine parce qu'ils étaient proches de nous, ici. Et donc, j'aime bien rappeler ces chiffres sur la question environnementale, c'est que si les 6 millions de morts, les 4 millions d'exilés, les 10 000 femmes violées ne vous touchent pas, alors il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est cette forêt. Ces 10 années de carbone, du COD, qui sont captés, séquestrés. Et aujourd'hui, l'extractivisme des minerais fait peser un danger sur cette forêt. Ça veut dire que si on n'était pas proche humainement, eh bien, quelque chose qui peut nous tous nous toucher, c'est ces 10 années de carbone qui peuvent être relâchées dans l'air. Et puis, très rapidement, j'aime bien rappeler un certain nombre de choses, parce que des gens me demandent, mais il n'y a pas qu'au Congo qui a des ressources minières. Mais si vous voyez sur la carte, la grande majorité des pays qui sont sur cette carte, qui possèdent par exemple le cobalt, ce sont des pays plus ou moins structurés, qui n'ont pas connu de guerre continue comme la RDC, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de négocier ou de mettre de lois plus ou moins respectables par des multinationales, ce qui est quasiment impossible au Congo. Et malheureusement, les minerais ne sont pas, sont inéquitablement répartis sur Terre, et au Congo, on en a plus de 60% du cobalt. Plus de 80% du, 60% du cobalt mondial provient de la RDC, 80% du coltan mondial provient de la RDC, donc c'est des chiffres gigantesques. Et puis, de l'autre côté, je vous mets une scène que j'aime bien rappeler. Quand il y a la guerre, il y a des scènes comme ça. C'est beaucoup de gens qui vont fuir et vont se retrouver sur une zone donnée. Et cette zone donnée, souvent, il y a d'autres populations avant. Ce qui crée d'autres conflits et peut alimenter la guerre, ce qui peut expliquer les chiffres des 6 millions de morts pour ceux qui auraient des doutes. Yes. Les conditions d'extraction, puisque c'est ça le thème de mon intervention ce soir. Il y a artisanal. 20% des minerais qui proviennent de la RDC sont produits dites de manière artisanale. Non, ça n'est pas les artisans tels qu'on l'imagine ici. Ce sont des gamins qui bossent dans des trous, parfois à des éboulements de terre et qui se retrouvent enfouis sous les terres. C'est de manière, je ne sais pas comment le décrire, pas du tout organisé, il n'y a pas une question artistique derrière le mot artisanal quand je vous parle. Hein, c'est... Et puis, il y a industriel. Industriel, chez nous, ça va avec la corruption des élus, la corruption de la classe politique congolaise. Donc, ce n'est pas forcément non plus organisé tel qu'on peut se l'imaginer. Et puis, ce qu'on oublie souvent, la guerre. Et je vous mets une photo que le docteur Mukwege aime bien utiliser aussi. En fait, pour permettre que ça se passe, les gens travaillent parfois sous des menaces comme ça, des hommes armés qui obligent des gens d'aller creuser et qui rançonnent derrière par des taxes à minerais. Un peu comme à l'époque coloniale, il fallait livrer du caoutchouc, sinon tu étais tué ou tu avais une punition corporelle. Et au-dessus, je vous mets du coup quelques chiffres, on va dire, des grandes entreprises qui se trouvent au Congo, etc. Souvent, mais je n'ai pas le temps là, je ne vous ferai pas deviner, mais la congolaise là-dedans, c'est Gécamines. Donc, c'est l'avant-dernière dans les chiffres. Et pour finir, est-ce qu'il existe des régulations et à qui profite cette économie? À côté, je vous ai mis les chiffres qui datent de 2014. En 2014, déjà, on avait plus de 7 milliards de smartphones qui étaient déjà produits dans le monde. Et de l'autre côté, donc, le monde a entendu parler de ce qui se passe au Congo. On a commencé à faire des lois, donc, notamment celle qui est assez connue, c'est Dodd-Frank aux États-Unis, qui sont des lois très hypocrites. Pourquoi? Parce que ça refuse que les minerais du sang rentrent sur le territoire européen ou américain. On peut se dire, génial. Simplement, en fait, si on regarde le trajet de ces minerais, c'est clair que ça ne rentre pas sous sa forme brute, ça rentre sous les formes finies. Donc, quelque part, on n'a pas à se culpabiliser ici. On n'a pas à s'imaginer que les minerais de sang rentrent directement en Europe, aux États-Unis, etc. On va blanchir ces minerais. On va d'abord les blanchir en faisant passer dans les pays à côté du Congo, parce que les minerais, le coltan, il y a une époque, le Rwanda était le plus grand exportateur du coltan, alors qu'il n'en produit pas, l'Ouganda, etc. Et puis, ça va en Asie, notamment en Chine, et la Chine propage partout dans le monde sous forme de produits finis. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est une loi, et j'ai fini. Et c'est une loi, donc, ce sont des lois hypocrites qui font blanchir les minerais de ça, en fait. Donc, on se retrouve avec nos outils, nos smartphones, etc., qui sont blanchis, qui, toute cette histoire dont j'essaie de vous raconter en 20 minutes, disparaît, n'existe plus. On ne voit que des téléphones tout propres, des smartphones ou autres. J'ai fini rapidement pour vous montrer quelques chiffres que j'ai essayé de trouver, vous parler de quelque chose qui m'inquiète particulièrement, c'est le risque d'une guerre imminente, d'une troisième guerre congolaise ou mondiale, ou africaine, si vous voulez. C'est parce que, un, la demande intérieure chinoise continue d'augmenter en termes de ces ressources-là. Les autres parties du monde aussi, ça continue. Et la classe politique congolaise qui est divisée et plus de 120 groupes armés. C'est 130 aujourd'hui si on regarde les chiffres des Nations Unies, qui sont concentrés à la même partie est dont je vous ai montré tout à l'heure. Et au même moment, on a une montée des demandes mondiales de ces ressources qui viennent du Congo, à l'image de la voiture électrique qui est le symbole de la transition écologique, par exemple, en Europe ou ailleurs, qui, pour le coup, sur les questions des transitions environnementales, vont participer à créer une bulle environnementale dans certains endroits et ailleurs, de misère encore, encore, encore. Voilà, et j'ai fini par des solutions, parce que l'histoire que je vous ai racontée, c'est un peu bloc. Mais je combats fortement l'idée que c'est bon, on ne peut plus tout faire, on peut rien faire après ça, on ne peut rien faire, parce que d'abord, ça voudrait dire que ces territoires-là sont oubliés et qu'on peut s'installer dans une forme de confort. Donc, on combat le fatalisme en enclenchant un processus de défatalisation. C'est le sociologue Yannick Barthes qui a un peu parlé de ça. C'est détricoter en fait le construit. Comment je pourrais le dire? C'est-à-dire que on sait que ça nous est pas tombé dessus comme ça en fait. On sait que ça a été imaginé, construit. Alors, à partir du moment où on sait comment c'est constitué, comment ça s'est fait, on peut commencer à travailler sur ces façons de faire. Après, il y a la reconnaissance des écocides. Je pourrais revenir sur le protéger les droits d'asile, sinon je ne serais pas là en train d'en parler. Faire l'exigence de la traçabilité de tous les minerais, le renforcement du droit à réparer. Vous voyez à quoi je fais allusion? Je fais allusion à l'allongement des durées de nos produits pour éviter une concentration de demandes sur le territoire qui nous permettrait là-bas vraiment de respirer. Donc, je vous remercie et puis je reste pour les questions et je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Je ne voudrais pas être à la place de Gauthier qui va prendre la parole maintenant. Think different, comme dit Apple. Donc Gauthier, je te passe la parole pour nous parler de la complexité. Je crois que là déjà, on a un petit aperçu quand même d'où peut venir une certaine complexité, voire une certaine ambiguïté dans ce qu'on a appelé longtemps l'immatériel. Maintenant qu'on a bien compris que c'était du matériel et qu'il y avait de l'humain derrière, il y a la question des conséquences en fait de tout ça. Là, on passe côté climat. Donc je te passe la parole.
Alors oui, bonjour, merci pour l'invitation. C'est dur de passer après David, en effet. Donc je vais changer d'ambiance. Non pas que je vais vous faire oublier ce qui a été dit avant, loin de là. Et je vais essayer de le faire rapidement puisque je dois partir à 18h15, donc je vais me mettre mon téléphone là. Ça va être rapide. Donc la première chose qu'on doit remettre dans le cadre, c'est la trajectoire globale dans laquelle nous devons tous aller, au moins au niveau européen. Donc, ce qui nous tient au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'on va appeler le Fit for 55. C'est le fait que l'ensemble des pays européens doivent réduire leurs émissions de carbone de 55% en 2030 par rapport à 1990. Donc, nous, il nous reste 7 ans tout mouillé pour arriver à réduire de 55% nos émissions de carbone par rapport à 90. Nous sommes loin d'y être. Mais en tout cas, il y a une trajectoire qui doit s'imposer à tous les secteurs. Et ça veut dire à peu près un rythme de... tous les secteurs doivent réduire de près 5,5% leurs émissions par an, quels qu'ils soient. C'est un objectif inconditionnel pour l'ensemble d'une économie donnée, y compris le secteur numérique. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que le secteur numérique, il est extrêmement dur à définir. On peut parfois se poser la question, est-ce que le secteur numérique existe, en fait, d'un point de vue économique ? La dernière fois qu'on a défini ce secteur, c'était en 2008. La dernière fois que des gens se sont réunis autour d'une table pour dire finalement, c'est quoi, en termes d'activité économique, le secteur numérique ? C'était à l'OCDE, c'était un comité d'experts de 2007 à 2008. Donc, c'était 2 ans, je crois, après la sortie du premier smartphone. Et donc, ça veut dire, c'était donc il y a 15 ans, ou 16 ans, bientôt. Donc, on a un périmètre qui n'est pas très bon à la base et qui fait qu'on doit faire plein d'ajustements pour essayer de recapturer des nouveaux objets qui arrivent, des nouveaux services qui arrivent, etc. Et qui crée aussi des différences d'estimation en fonction de ce qu'on va faire rentrer ou pas. Et il faut aussi comprendre la différence entre électronique et numérique. Dans le secteur numérique, on ne prend pas en compte beaucoup de choses en fait, dans l'économie. Typiquement, si vous faites des composants électroniques et des logiciels embarqués qui vont aller dans une voiture, ce n'est pas le numérique pour nous. C'est le transport. Donc, on ne prend jamais tout ce qui va aller directement en dehors du secteur numérique. Et donc, un jour, on devra se poser la question de l'intégrer ou pas en fonction de la numérisation intensive de plus en plus d'objets aujourd'hui qui nous entourent, mais qui pose des grandes questions sur ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Certains chercheurs, par exemple, considèrent que ce qu'on va appeler les crypto-monnaies ou les différents protocoles de vérification ne font pas partie du secteur numérique, donc ils ne les incluent pas. Il y a plein d'objets connectés qu'on va considérer comme non faisant pas partie du secteur numérique. Donc c'est pour ça que la première complexité, elle vient du fait qu'on n'a pas un périmètre très stable dans ce qu'on va appeler le numérique, et on va aussi plus ou moins inclure tout ce qui est médias et communication, typiquement le fait de l'animation de la télé, de la radio, de la production audiovisuelle, ça on le rentre plus ou moins, ça dépend. Donc il faut toujours faire très attention à finalement ce qu'on va appeler le numérique. C'est la première base en fait du calcul. Le deuxième, donc lorsqu'on veut calculer l'empreinte environnementale d'un secteur, c'est de se poser la question de quels facteurs en fait on regarde. On aime bien parler énergie, carbone. Il va y avoir bien évidemment la question des minerais, qu'on prend très mal en compte aujourd'hui dans le secteur numérique. On a beaucoup, beaucoup de mal à évaluer l'empreinte matérielle en fait, du secteur numérique. Et notamment qui est spécifique parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de volume de matière qui va être demandé, mais elle dépend d'une industrie beaucoup plus large. Et surtout, il y a une très grande diversité de métaux qui sont appelés par le secteur numérique, sûrement le secteur.